Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, c'est votre nouveau rendez-vous du soir, 2 heures de direct, on est au studio 621, c'est en plein cœur de la maison de la radio et ce soir, des affaires sensibles au programme des faits divers et d'aventures avec nos deux invités qui ont déjà commencé l'émission avant que les micros ne soient branchés, des hommes de parole et d'action. Pour paraphraser votre titre, Henri Leclerc, vous revenez sur votre parcours d'avocat pénaliste, star du barreau, vos combats pour les droits de l'homme, votre engagement à gauche, votre vision de la justice, à travers bien sûr plusieurs affaires, Véronique Courgeot, Strauss-Kahn, le Carlton, Omar Haddad et même les petites annonces de Libération. Henri Leclerc, bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, Philippe Jaénada, lui aussi passionné par les affaires judiciaires. Il se lance aujourd'hui sur la piste de l'extraordinaire Henri Girard et de l'énigme du triple assassinat du château d'Escoire en 1941 dans son nouveau roman La Serpe. Portrait de Philippe Jaénada en inspecteur pas gadget du tout. Bonsoir à vous.
Bonsoir Laurent.
22h30, l'instant V de Valise. Pour commencer la semaine, on part de quel côté, Valise?
Alors, notre invité s'appelle Marietta, Guillaume de son prénom, il est en live ce soir. Quelle est l'ambiance qu'il veut faire passer?
C'est surtout pour vous que je le fais, donc j'espère que vous allez passer un bon moment. Pas si vous voulez passer un mauvais moment, mais ça j'y peux rien.
On veut et on va passer un bon moment dans une vingtaine de minutes avec le live de Marietta.
23h, ce sera l'heure du journal, alors ben, on s'en va. 23h15, tiens, on revient. Le NRV La Suite défile ce soir au son de la techno à quelques jours du week-end Technoparade à Paris. Parce que la techno, ça existe encore, hein, Christophe.
Oui, alors je pourrais pas dire après les vieux, les jeunes, puisque là, ça sera aussi des vieux, les vieux de la techno. Mais on va justement les questionner sur cette question-là. C'est important, je trouve, il y a des Technoparades Paris, c'est électronique, oui. Enfin, ça chauffe encore quand même. Hein, le cadavre très saute avec violence et il y a du monde dans la rue. Alors il y aura Tommy Vaudecrane, PDG de Technopole et le patron de la Technoparade. Il y aura Ariel Kirou qui est essayiste, historien de la techno. Il y aura DJ Agoria qui, comme son nom l'indique, est DJ. Et puis il y aura Marion Delpech qui, elle, est directrice d'une radio, d'une web radio techno qui s'appelle Piwi FM.
Tout ça, ce sera à 23h15. Pour l'instant, le NRV, 22h minuit. C'est reparti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Eh bien oui, affaire sensible ce soir avec vous deux, Philippe Jaénada, en romancier qui mène l'enquête dans son nouveau roman La Serpe sur le triple assassinat du château d'Escoire en octobre 41, un massacre familial à La Serpe, on va y revenir. Et puis vous, Henri Leclerc, avocat pénaliste, figure du barreau, qui revenez sur votre parcours d'homme de parole et d'action. Vous vous connaissiez avant d'être invités tous les deux ce soir?
Non, non.
De réputation, c'est
moi,
ça Philippe Jaénada?
Je veux dire que je suis extrêmement fier et content d'être là.
Écoutez, moi aussi, parce que
je
peux pas faire moi. J'ai aimé son livre et je connaissais déjà le précédent, pas celui sur Bruno Soulac.
Ah, le précédent sur Pauline Dubuisson?
Oui, bien sûr.
Ah, d'accord. Bon, on va revenir sur ces affaires-là. Philippe Jaénada, d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que vous revenez sur un fait divers. On parlera du fait divers qui nous intéresse dans quelques instants et sur des procès à la fin des années 40, début des années 50. Aujourd'hui, donc, Henri Girard, qui a été jugé pour avoir peut-être assassiné son père, sa tante et leur bonne dans des conditions absolument atroces en 1941. Mais avant, il y avait eu donc l'affaire Pauline Dubuisson, jugée pour avoir assassiné son amant. Vous lui aviez consacré donc la petite femelle que vous avez dû lire, c'était en 2015. Oui. C'est quoi cette fascination pour les faits divers et pour cette période-là, en fait? 41, c'est le triple assassinat, et 51, c'est l'assassinat de l'amant de Pauline Dubuisson.
Alors, ce n'est ni une fascination pour cette période, ni une fascination pour les faits divers, c'est simplement que c'est très pratique. C'est-à-dire que les faits divers, moi, ce qui m'intéresse dans les faits divers, c'est que ça constitue, les dossiers d'enquête et d'instruction constituent un matériau pour un romancier, un écrivain, absolument unique. C'est-à-dire que on a à sa disposition des milliers et des milliers de pages de témoignages de tous les gens qui ont côtoyé de près ou de loin, qui l'ont connu quand il était petit, qui l'ont croisé la veille du crime ou du drame, la personne en question. C'est-à-dire que sur Pauline Dubuisson ou sur Henri Girard, Georges Arnaud...
Ah oui, alors, on commence à perdre. Henri Girard...
Son vrai nom,
et qui plus tard signera sous le nom de Georges Arnaud le salaire de la peur, puisque c'est lui l'auteur du salaire de la peur, qui deviendra un film sous la caméra d'Henri Georges Clouzot.
Il a changé de nom parce qu'il était connu en tant qu'Henri Girard comme le possible assassin de toute sa famille. Et sur ces gens-là, je connais plus de choses que sur ma mère ou sur ma femme. C'est-à-dire que des centaines de personnes de tout leur entourage sont intervenus pour donner des témoignages qui brossent un portrait incroyable, un portrait avec des facettes multiples d'une personne, et pour un romancier, avoir tous ces témoignages sur une seule personne, ce n'est possible que dans le cadre d'une enquête policière ou judiciaire. Et le fait que ça se passe, que les deux se passent sous l'occupation ou dans ces années-là, c'est aussi tout bêtement, moi je m'intéresse autant évidemment à ce qui se passe maintenant qu'à ce qui se passait en 1941, il y a tout simplement un délai de communicabilité, maître.
C'est ça, maître.
Un délai qui de est communicabilité. De 75 ans après, ouais, après les faits. Le communicabilité,
oui,
des dossiers.
La communication, est, oui, c'est 75 ans, je crois, voilà. 70 ans. Dans les archives judiciaires sont bloquées un certain temps. Et il y a même des dossiers qu'on a encore du mal à avoir, comme par exemple le dossier de jugement des magistrats de la section spéciale. Pendant la guerre.
Ah oui, parce que là, il doit y avoir des...
Il doit y avoir des dossiers, comme on dit. Il doit y avoir des dossiers.
Donc voilà, pour moi, c'est surtout pratique, mais un fait divers qui serait passé la semaine dernière m'intéresse évidemment autant.
Mais pour autant, vous ne pourriez pas le traiter aujourd'hui. Vous aviez lu l'affaire sur l'affaire Pauline Dubuisson. Qu'est-ce que vous en aviez pensé, vous, le magistrat?
J'avais pensé que c'était très intéressant, parce que...
Une matière romanesque, pour autant, c'était un roman.
C'est un roman, je le connaissais, parce que je ne l'ai pas. J'étais tout jeune, quand il y a eu l'affaire Pauline Dubuisson, mais je connaissais bien les deux avocats, les deux protagonistes, ceux qui, dans le film La Vérité, qui a été tiré par la suite avec Brigitte Bardot, sont représentés par Paul Meurice, d'une part, et par Charles Vanel, d'autre part, et qui sont Paul Baudet et René Floriot. Paul Baudet, pour lequel j'avais une immense admiration, mais qui a... Bon, il a sauvé sa tête, mais il aurait pu avoir moins peut-être, et qui était un avocat d'une très grande élévation d'esprit, et Floriot, qui était un homme d'une efficacité redoutable, même s'il était moins séducteur pour les jeunes avocats que nous étions.
À l'époque. On va revenir sur les deux romans dans quelques instants. Il y a un romancier qui revient régulièrement dans votre livre, Henri Girard. C'est Victor Hugo et Les Misérables, notamment. Les Misérables que vous allez même raconter.
Moi, oui.
Henri Leclerc.
Henri Leclerc, oui.
Oui, je suis pas Henri Girard.
Ah, mais oui, non mais c'est vrai. Voilà, oui, non, mais en effet.
Il est présumé innocent.
Mais présumé innocent, mais manifestement coupable.
Oui, ah ben Victor Hugo revient, oui, ouais. Victor Hugo revient parce que j'ai, après mon père, une admiration sans borne pour cet écrivain. Voilà.
Et Les Misérables que vous allez raconter à un détenu.
Ah, ben ça, c'est une histoire qui est. C'est mon premier client. Et je vais à la prison. Alors, je raconte ce qu'est la prison, que je renifle pour la première fois. Et
une odeur qui vous reviendra chaque fois que vous y allez.
Absolument. Ouais,
chaque fois.
Et ce garçon qui a volé les voitures et qui a mon âge exactement, enfin bon, c'est... Et il sait lire. Et il y a une bibliothèque à la santé. Cette bibliothèque, elle est extraordinaire parce qu'il y a un chariot qui passe dans les coursives le matin et on donne un livre à chaque détenu qu'il réclame. Mais on donne le livre qui est sur le dessus de la Bible.
Ah oui, il ne réclame pas un livre.
Alors,
précisément.
Un jour un roman de Paul Bourget, un jour un livre sur les Martiens, enfin, tout ce que vous voudrez, bien. Et un jour, il a lu le deuxième tome des Misérables. Et il me raconte ça, il trouve ça formidable. Alors, bon, je connais l'histoire et vous voudrez bien connaître le début et la suite. Je suis allé acheter immédiatement les
le
Misérables.
Le premier tome Tous les six tomes.
Non, il y avait quatre tomes, ouais. Je me rappelle encore. Quatre tomes d'une édition populaire chez un bouquiniste. À l'époque, il y avait des bouquinistes sur les quais qui étaient des gens cultivés. Et alors, j'achète et je l'amène à la prison. Et le directeur me rit au nez en me disant « Mais vous pouvez pas remettre ça, c'est pas possible !» Je dis « Mais enfin, écoutez, c'est pas de la littérature interdite. Non, pas question, même si le juge... Non, c'est contraire. » Et donc, j'étais obligé de lui raconter... Alors, les quatre tomes sont partis et ils ont été distribués par la suite. Et j'ai été amené à... Je lui ai raconté.
Toute l'histoire.
Et toute l'histoire. Et nous en avons beaucoup parlé. Après, il a été condamné, il est reparti en prison. Et je le dis dans mon livre, et c'est la première fois que je me suis dit « Quelle connerie !» Ce type, si on s'occupait de lui, il sait lire, il est intelligent, il sait lire. Pour moi, c'était essentiel. Et bon, il a commencé une carrière de délinquant. Et puis c'était fini.
Il
y a quelque chose dans le livre de Maître Leclerc qui m'a vraiment touché, qui m'a fait comprendre à 53 balais, il serait temps, ce qu'était un avocat en fait. C'est-à-dire que je pense que moi, comme la majorité des gens, on se dit comment un avocat peut défendre quelqu'un qui fait quelque chose d'odieux, qui fait quelque chose...
Ah mais c'est son métier.
C'est son métier, mais on perçoit une sorte de cynisme et je pense qu'on a tort. Et il y a évidemment qu'on a tort. Et il cite un exemple, Henri Leclerc cite un exemple de Victor Hugo à Guernesey avec un traître.
Oui, absolument. Non, comme ça, oui, avec un traître.
Un traître. Oui. Et il dit, le traître est odieux, l'homme est sacré, oui, et en fait, on défend l'homme. C'est ça, moi, ça m'a vraiment touché. C'est-à-dire qu'un avocat ne pense pas, j'imagine, que son client a fait quelque chose d'odieux. Il pense d'abord que son client est un homme et que donc il est sacré, donc il le
c'est
défend.
C'est le secret de la défense.
C'était vraiment très touchant. Enfin, moi, ça m'a vraiment.
Oui, c'est le secret de la défense. Je crois que je dis à un moment que pour moi, la justice,
bon. Henri Leclerc.
Les juges sont chargé de la liberté par la Constitution, le procureur est chargé de ce que tout le monde tout soit égal, et bon, hein. L'avocat, il est chargé de la fraternité. C'est-à-dire qu'on est au cœur de la devise de la République, et je crois que c'est notre travail. Et je cite à cette occasion la plaidoirie des pendus de Villon, frères humains qui après nous vivaient, n'ayez le cœur contre nous endurci. Bref, frères humains, c'est ça.
On va revenir sur ce parcours dans quelques instants. Allez, retour vers le futur tout de suite avec Calypso Valois, c'est la fille d'Élie et Jacques Naud, les jeunes gens modernes qui nous ont fait danser Valli dans les années 80. Calypso Valois prend le relais et ça sonne apprivoisé sur France Inter.
La présence d'un avocat est nécessaire pour les victimes, mais elle est nécessaire aussi pour ceux qui ont commis des crimes, ou pour ceux surtout qui sont accusés de les avoir commis. Parce qu'il n'y a que comme cela qu'on évite le pire des crimes, qui est l'erreur judiciaire, et parce qu'il n'y a que comme cela que l'on peut rendre une justice juste, sereine et loin des passions.
Une justice loin des passions, c'est vous qu'on entendait Henri Leclerc, dernier géant du barreau pour Vanity Fair, monstre du barreau pour l'Obs, toujours de gauche, ça c'est le Figaro, grand avocat humaniste pour le journal du dimanche. Chacun y va de son titre et de son commentaire. Vous vous racontez dans La Parole et l'Action chez Fayard, votre serment c'était en 55, vous revenez sur votre jeunesse, le sentiment de la justice qui anime déjà votre père, notamment à propos de la comédie judiciaire dont sera victime Laval, une leçon, c'est votre terme dites-vous, c'était vraiment la première et quelle leçon ça a été pour l'avocat que vous alliez devenir des années plus tard.
Ben écoutez, c'est quelque chose qui a sidéré mon enfance. J'avais 11 ans et demi, quelque chose comme ça. Et mon père, qui pendant toute la guerre, qui était un homme Vichy, pour lui, c'était l'horreur. Et Laval, ce qu'il y avait de pire.
Une abomination.
Enfin, bon, ouais. Il était ancien combattant. Il avait au début pendant la guerre de 14, Pétain, il avait rétabli les permissions. Puis alors, bon, c'est venu très vite la vieille Baderne. Mais Laval, c'était la canaille. Et il rentre un jour en 45. Hein, Et il dit, c'est horrible. Il est dans une colère noire parce que Laval a été condamné sans avoir été défendu. Que les jurés l'injuriaient, etc. Et après, il a été exécuté après s'être suicidé. Ouais. Et qu'on a passé une matinée à patauger dans la mer pour le restaurer. Et que le procureur général a fait un communiqué de presse qui est quand même extraordinaire. Les jours de M. Laval ne sont plus en danger. Et on l'a traîné au peloton. Et mon père était dans une colère noire. Et je comprenais pas bien quand même. Parce que, après tout, à l'époque, vous savez, on entendait beaucoup. Bon, on a fusillé un salaud. Bon, mes parents étaient contre la peine de mort.
Mais enfin, déjà, bon, ouais.
Là, c'était... Et donc, il m'a donné le livre d'Alberno. Alors, par un hasard, qui sera mon patron, par un hasard, dont je ne sais pas si c'est un hasard ou si c'est en définitive, j'ai cherché à aller chez lui, ça c'est plus compliqué, mais qui explique effectivement cette comédie judiciaire. Et là, j'ai compris, donc très jeune, qu'il fallait juger même ceux qui ont fait les pires choses et non pas les exécuter sommairement.
Alors bien sûr, on vous suit dans votre parcours pénal, le droit de la presse aussi, le positionnement à gauche dès le départ, avec Michel Rocard, que vous rencontrez le premier jour des cours à la fac de droit au Panthéon. Lui, il est élève à Sciences Po. On y croise aussi très rapidement Jean-Marie Le Pen qui vous gifle. Vous avez 18 ans, ça commence bien. Le Pen, qui était déjà un vieux briscard et qui va truquer les élections de l'époque, s'il veut faire un procès, il continue. Forisson, des années plus tard, en 90, qui vous menace d'un procès, alors même que vous dénoncez ceux qui, comme lui, ont nié le génocide arménien comme des assassins de la mémoire. Je ne peux tout dévoiler de ce parcours. Christophe, vous aviez une question tout à l'heure quand on parlait justement du positionnement à gauche. Vous aviez une question dans le bureau. Christophe Bourseiller.
J'ai beaucoup fréquenté l'extrême gauche et travaillé sur l'extrême gauche et le nom d'Henri Leclerc était un nom qui revenait de façon emblématique. Notamment, je crois que vous avez signé toutes les pétitions de l'extrême gauche de 1968 à 1978 peut-être. Et est-ce que vous craignez pas de franchir un peu une sorte de frontière invisible entre justement cette indépendance de l'avocat et l'engagement qui a fait de vous peut-être une sorte de compagnon de route du maoïsme, par exemple, bon, à une certaine époque.
Henri Leclerc.
Ce livre, justement, La parole et l'action, je pense que c'est ce que j'explique.
Exactement, oui.
C'est ce que j'explique. C'est-à-dire que je montre que c'est, en fait, un même combat, même si on défend des personnes. Mais même dans cette période où je défendais les maoïstes, je n'ai jamais oublié que je défendais des hommes. Jamais. Et en définitive, qu'est-ce que je faisais? J'essayais de convaincre les magistrats qu'il ne fallait pas les condamner comme on voulait les condamner. Alors, il y avait beaucoup de choses, il y avait les références, je raconte, les références à la Révolution française, évidemment, mais il y avait aussi un certain nombre de choses pour essayer de rapprocher les gens. Et plaider, c'est ça. C'est pas pour autant que j'avais peut-être à signer des pétitions pour les défendre, mais jamais... En fait, je n'ai été dans leur combat. C'est-à-dire que je n'ai... Très souvent, je ne croyais pas à ce qu'ils disaient. Bon, mais ça ne peut rien, je les défendais quand même. Et ça, c'est... Et bon, c'est ce que j'explique. C'est-à-dire que Alors, c'est vrai, mon engagement politique, je l'ai abandonné. Je le raconte. Oui. En ce moment, j'étais membre du bureau national du PSU. J'étais... Bon, mais je l'ai abandonné. Et pour diverses raisons, y compris parce que je n'étais pas d'accord avec l'orientation de mon ami Michel Rocard. Et... Là, j'ai continué le combat pour la défense des libertés. Et je me suis
notamment
engagé
à la Ligue des droits de l'homme, dont vous étiez président pendant des années.
C'est un engagement d'une nature un peu différente, mais totalement politique aussi.
Qu'est-ce qui vous a fasciné dans vous, dans le parcours d'Henri Leclerc?
Ce qui m'a fasciné d'abord, c'est que j'ai eu l'impression de lire un livre d'un homme bien, quoi. Un homme réussi, injuste, voilà, ouais. Ça m'a passionné parce que voilà, les affaires m'intéressent et puis tous les parcours humains m'intéressent. Mais vraiment, j'ai eu l'impression de rentrer dans la vie de quelqu'un que j'aime, voilà.
Et surtout quelqu'un
de proche, quoi.
Et quelqu'un qui a des admirations. Moi, c'est ça que j'ai aussi aimé et qui rend hommage à ceux qui ont pu le construire. Le livre est vraiment passionnant sur plein d'affaires médiatisées, Véronique Journeau, D.S. Carlton. D'ailleurs, très peu hein, sur D.S. Carlton. Mais je voudrais revenir sur une qui m'a impressionné, car vous lui consacrez plusieurs pages. Et c'est un tournant, je pense, dans ce parcours. On écoute une archive de 1964.
On peut dire que dans cette affaire, ce maniaque de la publicité, ce sadique de la publicité s'est perdu lui-même. Pour qu'on parle de lui, il n'a cessé de submerger la police, les journaux, la radio de messages. Pour qu'on parle de lui, il a donné des détails précis, il a joué avec le danger. Pour qu'on parle de lui, enfin, il a monté finalement cette histoire rocambolesque de voitures que l'étrangleur lui aurait volées et qu'il aurait retrouvées tachées de sang. Cet homme qui, pendant 38 jours, a nargué la police, tenu en haleine l'opinion, défié la presse, a avoué ce matin son crime. Et Lucien Léger, tel est son nom, infirmier stagiaire à l'hôpital psychiatrique de Villejuif, va être transféré à Versailles, où le juge Seligman instruit l'affaire.
Et vous allez intervenir donc, enfin, par la suite dans le procès. Qu'est-ce qui se joue pour vous dans cette affaire donc, de Lucien Léger? Peut-être que vous allez pouvoir la résumer rapidement. Vous qui, pendant le procès, allez dire cette phrase qui m'a sidéré et qui vous sidère vous-même encore. Vous réclamez la tête de cet homme, monsieur l'avocat général. Eh bien moi, messieurs les jurés, je vous défends de la faire couper.
En définitive, c'est pas tout à fait ça. Parce que l'affaire Lucien Léger... Je la raconte parce que je l'ai vécu comme collaborateur.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire que je ne plaide pas, je suis le collaborateur de Nau et je l'ai énormément travaillé. J'ai fourni à Nau la base de son argumentation, et ce qui ne m'empêche pas d'être sidéré par ce qu'il fait, et j'apprends mon métier. Là, je vous raconte dans une autre affaire, c'est-à-dire la première affaire où j'ai défendu quelqu'un contre lequel on demandait la peine de mort. Et là, je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais l'avocat général avait terminé son réquisitoire en disant « je demande la peine de mort ». Bon, ça m'a révolté, c'était plus fort que moi. Et j'ai dit « Monsieur l'avocat général vient de vous demander la peine de mort, vient de vous demander la tête de cet homme, et moi je vous interdis de la couper. Moi, messieurs les jurés, je vous interdis de la faire couper ». Évidemment, c'était fou. Je dis que j'ai eu un certain nombre d'affaires où la peine de mort a été demandée après.
Exactement,
je n'ai plus jamais osé le faire. Et je me suis toujours dit, si mon client avait été condamné à mort, comme j'aurais, après la suite, regretté cet exorde ab abrupto, comme on dit dans le langage de la rhétorique, je sais pas ce qui m'a pris, mais c'est vrai que ça a été comme un coup de poing sur la table. Il y a eu une espèce de silence impressionnant après.
Alors on ne va pas refaire toutes les affaires, il y en a une autre qui va ternir votre réputation à un moment donné. On parle même de trahison, c'est l'affaire Omar Haddad, jugé pour le meurtre de sa patronne, Guylaine Marshall. On vous écoute.
La justice est passée, pour ma part je regrette que notre procédure d'assises ne permette pas un appel. Je le regrette, de même que je regrette que dans cette affaire, toutes les mesures de police scientifique n'aient pas été prises, de même que je regrette que les expertises ne me paraissent pas toujours satisfaisantes, mais il n'empêche que l'évidence m'apparaît dans ce dossier.
Henri Leclerc, c'est une des rares fois que vous défendez la victime.
Oui,
c'est arrivé, mais...
C'est arrivé, mais rarement, c'est vrai. J'ai plutôt défendu des victimes, quelquefois, qui étaient marquées, comme la famille de Pierre Auvernay, par exemple, ou comme quand j'ai plaidé contre le milicien Touvier. Enfin, bon, tout ça, c'était... Mais là, effectivement, il y avait... C'est un ami qui me l'avait demandé, qui était le beau-frère de la victime. Et je me suis engagé. Et qu'est-ce que je raconte dans le dossier? J'ai été, c'est vrai, bon, j'ai été très fortement pris à partie par Roire.
Oui, c'est lui qui parle de trahison,
de
justement.
Française, qui parle de trahison. Mais, d'ailleurs, il dit, cet homme qui défendait les pauvres, enfin bon, je viens d'un autre côté curieux, c'est pas un gauchiste, c'est Roire, bon. Mais, je n'ai rien fait d'autre là que de raconter comment le chemin de ma conviction est ce que j'ai plaidé. Je n'ai pas ajouté un seul élément. C'est-à-dire que je n'ai parlé que de choses publiques, et j'ai révélé ma conviction en disant, après, c'est vrai que beaucoup ne me l'ont pas pardonné, mais ça fait rien, je ne regrette rien.
Philippe Janeda. Ouais,
moi, là, il y a quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est dans le livre, je trouve que Henri Leclerc interroge nos réflexes, nos certitudes réflexes. Il y a par exemple l'affaire Ceausescu, c'est-à-dire que moi j'ai toujours pensé, quand le couple, quand je l'ai vu à l'époque, j'étais jeune, je dis, yes, bien fait pour eux, voilà, boum. Et en fait, il nous permet de prendre du recul et de dire, mais non, c'est horrible, on n'a pas le droit de faire ça, même à des sales types, hein, on n'a pas le droit de faire ça. Et dans l'affaire Omar Haddad, moi, je me suis rendu compte que j'étais persuadé qu'Omar Haddad était innocent. Je me suis dit, tiens, pourquoi je crois ça? J'ai pas creusé le dossier. J'ai demandé autour de moi, après avoir lu le livre, dans le bistrot en bas de chez moi, tout le monde me dit, oui, bien sûr, Omar Haddad est innocent, c'est une évidence. Mais pourquoi tu penses ça, je demande. Et personne ne sait. C'est juste parce que Jacques Vergès, en sortant du tribunal, mais personne ne s'est penché là-dessus, tout le monde pense par réflexe, qu'il est innocent parce que c'est un jardinier, parce qu'il est marocain, parce que c'est la deuxième affaire Dreyfus, etc.
C'est ce que disait Jacques Vergès, oui. C'était l'argument de Jacques Vergès en sortant du procès.
Et il suffit de prendre un peu de recul, de regarder les choses calmement, avec détachement, et on en est beaucoup moins sûr, tout d'un coup.
Qu'est-ce que cela vous a appris sur vous, cette affaire, qui vous a vraiment...
Ça m'a appris sur moi qu'il fallait, à certains moments, quand on s'engageait dans quelque chose, il fallait avoir un certain courage pour tenir, d'abord. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, bon, beaucoup de gens ont fait pression sur moi pour que je me retire en disant non, c'est pas ta place, etc. Et puis ça m'a appris, c'est vrai, à une nouvelle fois, mais dans l'autre sens, à subir les foudres de l'opinion. Et ça, c'est bon. Ça me l'a appris dans l'autre sens, c'est-à-dire que je les avais déjà subis. Je pense à l'affaire Roman,
par exemple. À l'affaire Roman, vous aviez été, mais plus que chez AUT.
Où j'étais tout seul,
presque lynché par le public,
etc. Ouais. Et mais là, bon, là, je défendais un accusé. Ouais. Et voilà que, ayant défendu et en fait part de ma conviction, l'opinion se dressait contre moi, mes meilleurs amis, etc. Et j'ai appris qu'il fallait résister à cela. Mais c'est un peu difficile. Mais ça, c'est ce que je raconte.
Aujourd'hui, comment vous regardez la profession? Vous qui êtes un sage parmi les sages, au moment où on parle du scandale du barreau, sur les dépenses du barreau de Paris, il y a une guerre de bâtonniers, il y a des articles dans le Point qui sortent, on a l'impression que tout va se déballer. Comment vous regardez ça, vous,
bon,
Henri Leclerc?
Ces petites histoires-là, ça a toujours existé. Bien. Même si ici, aujourd'hui, un peu... Non, le seul problème, c'est l'évolution de la profession.
À quel niveau?
Alors, il y a deux choses. Premièrement, cette profession a complètement changé. Quand je suis arrivé, nous étions quelques milliers. Aujourd'hui, il y en a 60 000. Bon. Deuxièmement, c'est vrai que la fonction de conseil a pris une ampleur considérable. Et nous avons aujourd'hui des véritables entreprises, énormes, avec 200 avocats, etc., qui, comme les Américains, sont des avocats qui conseillent, et que les autres avocats continuent. La défense... Le problème de la défense pénale, qui existe toujours, la défense des individus, etc. Moi, je trouve que les jeunes ne l'amènent pas si mal que ça. Vous savez, il y a une chose qui m'a toujours révolté. Un jour, j'ai lu dans Platon qu'il disait que la jeunesse était devenue paresseuse et que les jeunes ne savaient plus rien et qu'ils étaient...
Déjà Platon.
Ça n'a jamais cessé. Depuis ce temps-là, il y a toujours des gens qui disent à les jeunes, bon, c'est pas vrai. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui font bien leur métier et qui essayent de bien le faire. J'espère que ce livre pourrait peut-être les aider aussi. Il y a des problèmes très difficiles. Je pense en particulier au problème du financement, qui est important, parce que ce ne sont pas en général... Enfin, ben certes, il peut y avoir des riches qui sont poursuivis, mais en général, très souvent, la délinquance n'est pas faite par les plus riches. Et cette forme d'exercice nouvelle de la profession, l'intervention de l'informatique, fait que... Le coût de production d'un avocat, c'est horrible. Si j'avais entendu ça quand j'avais 25 ans, j'aurais dit qu'est-ce que c'est que ce vieux crétin. Mais le coût de production est très cher. Donc il y a une difficulté. La prise en charge par l'État n'est pas facile, etc. Il y a une difficulté. Bon, enfin, les règles fondamentales de la défense existent toujours. Hein. Et même si on va aller dans un palais de justice gratte-ciel du côté des Batillonnes, et ça, la justice tombe. L'essentiel, c'est un homme qui est accusé et qui risque la prison. Voilà. Heureusement, aujourd'hui, il ne risque plus la mort.
Merci, Henri Leclerc. Vous restez avec nous. Je rappelle que La Parole et l'Action, c'est chez Fayard.
Rendez-vous.
Musique tout de suite avec l'Instant V de Valli, avant de retrouver Philippe Jaénada pour une autre affaire sensible, celle d'Henri Girard, et non pas Henri Leclerc. Henri Girard est le triple meurtre du château d'Escouart. Valli, ce soir notre invité.
Marietta sort son deuxième album solo chez Born Bad Records, label rock parisien. Amoureux du rock anglo-saxon, amoureux puisque Marietta est un garçon, il est parti à Los Angeles enregistrer avec un producteur américain, une démarche surprenante vu que son premier album était un bel exemple de DIY, c'est-à-dire fais-le toi-même, do it yourself, en somme, les maquettes sur lesquelles il a laissé beaucoup de place aux accidents. Plutôt heureux. La passagère est plus chiadée, plus pop, avec un côté ange mais aussi démon, un peu comme lui, tête d'ange et diablement direct. Et pour la petite histoire, il a beau enregistrer aux États-Unis, c'est en français qui chante. Et ça me plaît, c'est-à-dire il chante en français, parce que j'ai mal écrit enchanté, c'est enchanté. C'est non, parce qu'après j'ai fait une dyslexie.
Voilà. Il enchante en français.
Ça m'enchante parce qu'il chante en français. Ça me plaît. Le premier titre s'appelle Nos ventres nus, Marietta, sur France Inter et sur Facebook Live. Thank you.
gagne et quand la ville t'assomme, nos dos trempés. Quand le sirop colle et quand ma peur m'étonne encore.
Sur France Inter, il était au guitare-voix, Paul Ramon, il fallait l'inventer, à la batterie, Henri Adam à la basse, Paul Renaud au guitare-voix, Laurie Ixar au clavier-voix, et puis Adrien Soliman au saxophone, vous avez sans doute reconnu Laurent. Dites-moi, Guillaume, partir travailler avec un producteur américain à Los Angeles, ça a apporté ce que vous vouliez ?
Ah ouais, le résultat est super, ouais. Comment dire ? J'allais surtout là-bas parce que j'adore ce mec, Chris Cohen. C'est vraiment un excellent auteur-compositeur. Il enregistre ses disques lui-même, il les mixe lui-même. Et c'est un type, en fait, qui bosse comme moi, mais il est beaucoup plus talentueux.
Arrête.
Et voilà, j'avais besoin de quelqu'un qui m'aide, qui tire un peu le truc vers le haut.
D'accord. Et le fait que vous chantez en français, c'était peut-être le fait d'être exilé là-bas. Est-ce que c'est lui, Chris Cohen, qui vous a poussé peut-être
à
chanter ?
Non, j'avais écrit une chanson en français bien avant d'aller là-bas. Quand je suis parti là-bas, tout était fait.
Et chanter en français aux États-Unis, ça prend d'une autre ampleur, même si vous étiez sans doute dans un studio pendant quelques temps.
Disons qu'on on réfléchit moins au sens des paroles. Comme lui, de toute façon, ne comprenait rien à ce que je disais. C'était beaucoup plus simple. C'est pas que... Je pense que, enfin, quand j'écris un texte, je sais ce que je veux dire et je sais où je vais. Mais c'est-à-dire qu'on peut évacuer tout ça, toute cette pression-là de comment ça peut être perçu ou quoi que ce soit. On est juste là pour bosser. Et c'est vraiment juste direct.
Donc, le deuxième titre s'appelle « Électricité ». Guillaume Marietta sur France Inter et toujours sur Facebook Live.
Thank you.
Dans le nouveau rendez-vous. Son album La Passagère est disponible sur Born Bad Records. Il sera jeudi à Londres, le 5 octobre au Petit Bain à Paris, le 7 à Toulon, le 14 à Metz, le 25 à Nantes, le 4 novembre à Quessoy et le 15 décembre à Fontenay-sous-Bois. Mille merci d'être venu dans l'émission.
Merci
ce
à vous,
soir.
Nicolas.
Prise de son, Valentin Hazan, Sacha Trop et Clément Vuillet. Et à la vidéo, Dominique Philippot.
Une programmation de Marion Guilbault. Et demain, qui viendra hanter le studio 621?
Exactement, c'est Petit Fantôme.
Et ce sera à partir de 23h15 demain. Exceptionnellement,
ah oui,
le nouveau rendez-vous, 23h15.
Un new rendez-vous?
Non.
The new rendez-vous.
On retrouve Henri Leclerc, l'avocat pénaliste, et Philippe Jaénada, le romancier pour La Serpe. C'est le titre de votre nouveau roman chez Julliard. C'est aussi L'Arme du crime dans ce jeu de Cluedo que vous dessinez dès les premières pages. On va y revenir. D'abord, une question sur vous, romancier, qui prenait la voiture, une Opel Meriva de location, je ne sais même pas à quoi ça ressemble, et qui filait au fin fond du Périgord pour enquêter sur un triple meurtre jamais élucidé qui date de 1941. Qu'est-ce que vous alliez faire là-bas, inspecteur Jaénada, car c'est bien votre rôle dans ce roman?
je me demande ce que j'allais faire là-bas. En fait, je...
Pourquoi fallait-il se rendre sur place quelques plus de 60 ans plus tard?
Pour aider un ami, comme souvent. En fait, c'est un ami que j'ai rencontré dans mon quartier quand on emmenait nos enfants à la maternelle ensemble, il y a donc maintenant 13-14 ans, et qui me disait, quand on allait dîner chez lui, mon épouse et moi-même, qui me disait, il faut absolument que tu écrives un livre sur mon grand-père. C'est un homme extraordinaire, qui a eu une vie romanesque, on ne peut plus romanesque, qui a été clochard, milliardaire, qui a combattu pour la justice, pour des causes politiques.
Qui a dilapidé la fortune de sa famille.
Qui a dilapidé toute la fortune de sa famille, puis qui l'a reconstruit lui-même en écrivant un livre qui s'appelle Le Salaire de la Peur. Et moi, je me disais, j'étais presque gêné pour lui, parce que moi, je pensais que Le Salaire de la Peur...
C'était le film d'Henri-Georges de Clouzot.
C'était un chef-d'œuvre de Clouzot.
Qui n'avait même pas eu de romancier.
Voilà. Je savais que ça avait été adapté d'un roman, mais je me disais, un sourd roman de gare, un type qui a écrit un petit roman médiocre, dont Clouzot a fait un chef-d'œuvre. Et puis je disais, parce qu'on me dit toujours, quand on écrit des livres, au bistrot en bas de chez moi, on me dit toujours, si je te raconte l'histoire de ma tante, c'est le Goncourt assuré, la cousine de ma boulangère a eu la vie la plus romanesque possible, etc. Et donc je disais, non, c'est pas pour moi, c'est grande vie, c'est trop vaste, trop. Moi je suis un écrivain de l'anecdotique, du décalage, du petit dérapage.
Et donc les grands destins, a priori, ça n'intéresse pas le romancier que vous êtes.
Ça m'intéresse en tant que lecteur,
oui, que lecteur
évidemment.
Mais pas en tant que...
Non, en tant que romancier, moi, j'y trouve pas ce que je cherche. Moi, je cherche les petites failles, les petites brisures, les petites choses bancales. Et là, vraiment...
Vous allez être servi.
Et voilà. Et au bout de 10 ans, je ne sais pas pourquoi il a mis 10 ans pour m'en parler, il me dit, au fait, j'ai oublié de te dire, encore aujourd'hui, tout le monde pense que mon grand-père, Georges Arnaud, a massacré toute sa famille à coups de serpe. Voilà. J'ai dit là, voilà.
Alors voilà, ça peut m'intéresser.
Genre petit dérapage, c'est parfait.
On raconte.
Et donc, je me renseigne un peu là-dessus. Maintenant, grâce à Internet, on peut assez facilement obtenir des informations sur. Donc, j'achète les journaux de l'époque que je reçois le lendemain matin dans ma boîte aux lettres ou que je consulte numérisée sur Internet. J'achète 2-3 livres qui ont été consacrés à l'affaire et au bout de 3-4 mois de recherche, je lui dis, écoute, Emmanuel Girard, qui est donc le petit-fils d'Henri Girard. Je lui dis, écoute, je suis désolé, je vais pas pouvoir écrire le livre sur ton grand-père, c'est évident. Qu'il a massacré toute sa famille.
Oui, ça c'est évident.
C'est sûr, c'est-à-dire j'ai mis 3 mois, mais j'ai fait le tour du truc. Je lui dis, je peux pas écrire un livre pour dire que ton grand-père a tué. Et c'est une famille, maintenant, il a eu 4 enfants, Georges Arnaud, il y a plein de petits-enfants, des tantes, des oncles, des cousins. Je lui dis, je peux pas dire ça. Et il me dit, écoute, moi je crois pas, mais... Et puis j'avais un doute. Le doute vient de Maurice Garçon, dont on parlait un peu tout à l'heure.
On va en parler tout de suite justement, oui. Donc Maurice Garçon, qui
était son avocat, qui a accepté de le défendre. Je pense que Maurice Garçon était un avocat, comme certains, pas tous, mais qui était forcément dans un tribunal qui était rusé, roué même peut-être, parfois fourbe, mais qui dans la vie, je pense, était quelqu'un de droit, d'intègre, dans sa vie en tout cas. Et Maurice Garçon était l'un des meilleurs amis d'une des victimes du crime.
Le père.
Du père d'Henri Girard.
Le père d'Henri Girard, ouais.
Et je me dis, Maurice Garçon est la seule personne à avoir étudié le dossier en profondeur. La seule personne, en tout cas, hormis les gens de l'accusation. Il y a 75 ans, il a dû trouver là-dedans quelque chose qui lui a fait dire, j'ai le droit, j'ai ma conscience m'autorise à défendre celui qui est peut-être, celui dont tout le monde pense qu'il est assassin.
L'attentat de son ami. De son ami.
Et donc, ces archives sont conservées. J'étais le premier à les consulter, puisque à cause des 75 ans, elles sont conservées depuis 1943 aux archives de la Dordogne, départementales de la Dordogne. Donc, j'ai loué une petite voiture, je suis parti et j'ai dit à mon ami, écoute, je vais passer une semaine à Périgueux. Peut-être je vais trouver quelque chose qui va me faire dire que ton grand-père n'est pas coupable. Sinon, tant pis, ça m'aura fait une semaine de vacances à Périgueux et j'écris pas le livre. Et je suis allé voir là-bas avec ma mère et j'ai trouvé des choses.
Et vous avez trouvé des choses. Henri Leclerc, peut-être un mot sur ce Maurice Garçon qui était un avocat auquel vous rendez hommage justement dans le cas de Lucien Hervé. Hein.
Lucien Léger, qu'il a défendu avant.
Un mot peut-être sur ce personnage, qui est une figure emblématique du droit en France. Je
parle des avocats de ma jeunesse, et on a toujours l'impression, maman, ils étaient tellement plus grands que ceux d'aujourd'hui, mais Maurice Garçon est quand même un homme exceptionnel. Moi, j'ai entendu parler de Maurice Garçon quand il avait défendu René Hardy. On était les enfants qui sortaient de la guerre, donc pour nous, la résistance, c'était celui qui avait dénoncé Moulin, c'était terrible. Et puis il l'a fait acquitter deux fois. Et c'était formidable parce qu'il l'a fait acquitter aux acclamations de la foule. Moi, ça m'impressionnait.
Et c'est à peu près la même chose.
Et après, j'ai vu ce type plaider. Moi, j'ai été fasciné par cette espèce d'intelligence éloquente. Mais sa parole était formidable. Il avait une voix moelleuse. C'était un type formidable.
On raconte deux minutes le meurtre absolument atroce qui a eu lieu et la façon dont Maurice Garçon a pu en effet défendre quelqu'un que tout le monde pensait coupable quand il est entré et qui, pour ma conviction personnelle, reste vraiment le coupable.
Ah non, c'est pas vrai.
Oui, même en vous lisant. Même en vous lisant. Ah ouais, non, mais même en vous lisant, ça me paraît mais impossible. En plus, il l'avait même avoué à Philippe de Villiers.
Mais justement, oui, mais justement, il l'a avoué à la fin de sa vie à Philippe de Villiers, mais il l'aurait avoué à n'importe qui sauf à Philippe de à Gérard de Villiers,
pas oui, Philippe Gérard de Villiers, oui, en effet, ouais.
Je suis bizarre.
Gérard de Villiers.
Non, bien sûr.
Moi, j'ai bien connu, je dis simplement, c'est important, moi, j'ai bien connu Georges Arnaud. Dans les combats politiques dans les années 80. Jamais je n'ai osé lui parler de cette affaire.
C'est
non, mais personne.
Jamais je ne lui ai posé la moindre question, alors que tout le monde nous disait qu'il a été sauvé par.
Alors
ce
c'est
garçon.
Quoi? Je connais
alors,
pas
c'est
l'histoire.
C'est un mystère. Alors
allez,
Vali,
allez-y.
C'est un mystère. C'est tellement. On dirait que c'est faux, en fait.
Ah, ouais.
On dirait. Moi, c'est ce qui m'a intéressé. Je voulais faire un livre au début, genre Agatha Christie. Bah,
c'est ça.
C'est tellement kitsch presque qu'on dirait que c'est faux. Donc c'est en 1941, un soir d'automne, pluvieux, sinistre sous l'occupation. Enfin, c'est à côté de Périgueux, donc c'est encore en zone libre, mais pas pour longtemps. À une quinzaine de kilomètres de Périgueux, un petit bourg, un village fantôme presque, dominé par un grand château lugubre, à moitié délabré, parce que c'était une famille de châtelains, mais qui prenait pas beaucoup soin de son château.
Même s'il y avait de l'argent, hein.
Ils avaient de l'argent, ils avaient de l'argent, mais c'était Georges Girard, le père, était quelqu'un qui s'habillait mal, qui, enfin bon, bref, c'était des châtelains un peu décadents. Mais, toujours est-il qu'il y a ce grand château, impressionnant, qui est sur une sorte de colline. Et ce soir-là, il y a quatre personnes à l'intérieur. Le fils, qui est vraiment la caricature du fils insupportable, capricieux, colérique, dépensier,
irascible.
Un vrai dingue, comme beaucoup
hyper
de jeunes,
violent.
Il a 20 ans. Non, pas hyper violent, c'est pas vrai, pas hyper violent.
On n'a pas lu le même livre.
Moi qui l'ai écrit, mon garçon. Bref, donc le fils insupportable, le fils de famille, le gosse de riche insupportable. Son père, sa tante et la bonne. Ils sont tous les trois là, et le fils dont on dit qu'il n'aime son père que parce qu'il représente le porte-monnaie, qui fait souffrir sa tante, qui est une vieille fille un peu fragile, enfin un peu influençable, etc. Le sale gosse. Ils sont tous les quatre, ils dînent, ils ferment les portes, le château de l'intérieur avant de se coucher, les portes et les fenêtres, tout est fermé de l'intérieur. Ils vont se coucher, le lendemain matin, le château, il n'y a pas eu d'effraction. Trois personnes, le père, la tante et la bonne, sont atrocement massacrés. À coups de serpe sur le crâne, ils ont le crâne en bouillie comme des noix de coco. Et lui, le fils, ouvre la fenêtre, la porte et dit au secours, tout le monde est mort. Il hérite de toute la fortune familiale, le seul héritier. Les gendarmes arrivent, ils leur proposent une cigarette, un verre d'eau de vie. Il se met au piano, il joue la marche funèbre de Chopin, enfin vraiment le...
Très narquois, oui.
Il hérite de tout. La voisine arrive en disant « Il m'a emprunté la serpe hier sous un faux prétexte. » Enfin, la serpe hier, pardon. La serpe hier. Sous un faux prétexte. En disant qu'il voulait débloquer une porte. Alors que je lui ai dit « On débloque pas les portes avec des serpes. » Il m'a dit « Donnez-la moi quand même. » C'est, s'il y a eu un jour un coupable idéal, enfin non.
Maître
Leclerc a dû en connaître beaucoup, mais...
et il l'a fait affûter, la serpe.
Voilà. Oui, il l'a fait affûter aussi.
Il avait fait affûter la serpe. C'est le coupable idéal. Et Maurice Garçon, pourtant, étudie le dossier. Et contrairement à vous, Laurent Goumard, Maurice Garçon se dit « Ce gars-là ne doit pas être coupable, je ne vais pas défendre le meurtrier de mon ami. »
Oui, c'est l'argument qu'il sert justement et qui va convaincre les jurés.
Pense,
mais
je
c'est
pense
un argument
c'est sincère,
en fait.
Non, vous avez lu mon livre
ou pas? Ah bah oui, je l'ai lu.
Bah tout prouve qu'il est innocent, moi j'ai une certitude absolue de son innocence.
Moi, j'ai l'impression que le roman vous résiste parfois, Philippe Génada. Et vous, Maurice Garçon, j'allais dire.
Ah bah,
Henri Leclerc, tous les noms sont possibles
merci,
ce soir.
Merci.
Et vous, Henri Leclerc?
Ah bah écoutez, moi,
vous êtes convaincu par le plaidoyer de Philippe Génada?
J'ai été convaincu de sa culpabilité en lisant le livre. Ensuite, j'ai trouvé cette admirable plaidoirie de Garçon, résumé formidable, d'une intelligence malin comme tout, mettant en cause quelqu'un, et alors qu'il n'y a pas grand-chose, et parlant du père, enfin c'est magnifique, et obtenant l'acquittement en 13 minutes.
13 minutes, presque sous les acclamations de la foule.
Ce qui quand même me pose problème sur, vous savez, cette affaire est très importante parce que les jurés siègent avec les magistrats depuis 2 ans seulement à ce moment-là. Faut pas l'oublier. Barthélémy a mis ensemble les jurés et les magistrats, donc le président a une influence considérable. Bon, je lis ça. Et puis après, j'ai lu la fin du livre. Et effectivement, Maurice Garçon semblait avoir pas mal d'intuition. Mais en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que là, quand j'ai fini le livre, eh ben... Je dirais qu'au moins, j'ai une certitude du doute.
J'ai la certitude du doute. Alors, ce n'est pas la première fois que vous vous intéressez à un personnage lié à un crime. Donc, il y avait Pauline Dubuisson, on l'a cité au début de l'émission, qui avait assassiné son amant en 51. Cette fois, c'est un crime de 41, et chaque fois, un point commun. le cinéaste Henri-Georges Clouzot. L'affaire Pauline Dubuisson donnera La vérité de Clouzot avec Brigitte Bardot. Et Henri Girard, après avoir quitté, va devenir écrivain sous le nom de Georges Arnaud, l'auteur du Salaire de la peur, qui sera tourné par Clouzot avec Montand et Charles Vanel. Charles Vanel qui était déjà dans La vérité. On écoute un extrait du film et la voix de Georges Arnaud, le terrible Henri Girard.
Tu crois que t'es payé pour conduire un camion ? Pauvre bon, t'es payé pour avoir peur. T'as pas compris, c'est ça la division du travail. Toi tu conduis, puis moi je crève de peur. Crois-moi, t'as la meilleure place.
Le Salaire de la peur, à mon avis, est mon plus mauvais bouquin. Parce que je ne crois pas que la littérature soit composée d'ouvrages qu'on lit parce qu'on veut savoir comment ça finit. Or la clé du succès du Salaire de la peur, c'est que vraiment on se demande si ces gars vont s'en sortir ou pas, chose qui me paraît tout à fait secondaire et sans importance.
Tu veux que je te dise ? Tu crèves de peur, t'es une gonzesse.
Ah, je te défends de dire ça, hein, si t'étais passé par où je suis passé.
Ah non, dis tes histoires pelopes, hein ?
Je suis plutôt romancier que journaliste parce que je suis un peu menteur. Pour moi, le roman, c'est une histoire vraie racontée par un menteur. On va se balader, il vous arrive quelque chose, il aurait pu en résulter ceci et cela, et le roman, c'est ce qui aurait pu en résulter, présenté comme si ça avait véritablement résulté.
Et vous êtes un peu menteur aussi, vous.
Aïe, c'est bien, bien, bien,
bah ouais. Bien, ce gars-là. Oui, mais il a menti à Gérard de Villiers. Il a dit Gérard de Villiers, j'ai tué tout le monde. Il l'a menti, il lui a menti. Ouais.
Il débine son propre roman. Hein.
Oui, mais alors ça, je pense que c'est pas,
c'est
pas
la coquetterie.
Alors moi, je suis d'accord parce que moi, j'ai lu le roman avant que le film ne sorte. On n'est pas très nombreux et j'avais été enthousiasmé.
Ah,
en revanche, et je n'ai lu, je crois, qu'un seul roman de lui qui s'appelait Les Avenues plus doux, un truc comme ça. Bon. Mais en revanche, je trouve que vous êtes un peu sévère avec le film de Clouzot.
Oui, et puis j'ai vu que dans votre
que je vous aimiez beaucoup. Un chef-d'œuvre, et moi je n'aime pas le remake américain.
Voilà. Ouais. Ah non, ça c'est autre chose.
Le remake américain est absolument ressemble avec Isabelle
Jenny. Le film de Clouzot, je trouve que vous êtes un peu sévère avec lui, mais vous avez raison. Le roman domine le film.
Ah oui, oui, moi je pense, mais c'est par aussi par esprit de contradiction, c'est-à-dire qu'on a tellement. Moi, j'ai tellement été frappé par la prédominance du film aujourd'hui. C'est-à-dire que personne ne lit le livre, vraiment. Moi, j'espère, un des buts de mon livre, c'est que les gens relisent Le Salaire de la
peur. Je l'ai commandé.
Ah bah oui,
mais non, mais vraiment, je l'ai commandé, on ne le trouve plus.
Vous avez commandé le livre d'un assassin, Laurent, mais qu'est-ce que...
Ah ouais, c'est mon côté.
Et oui, c'est un livre formidable. C'est un roman noir, comme on en fait aux États-Unis. En France, c'est très rare. C'est vraiment un roman sombre, pesant, poisseux.
Qu'il a fait après un voyage absolument invraisemblable.
Deux ans de ce qu'on appelait les Tropical Tramps, les vagabonds d'Amérique du Sud, où il croisait d'anciens collabos, des bagnards de Cayenne évadés, etc. C'est un roman d'une force. C'est vraiment un roman très court, hein. Ça fait à peine 200 pages.
Contrairement au vôtre, qui est vraiment très long, qui est une grande saga où Philippe Jaynada se met aussi en scène en enquêteur tout au long de ce roman. Merci Philippe Jaynada, merci Henri Leclerc. La Serpe, c'est chez Julliard. On se quitte tout de suite avec, avec ça. Unconditional, Nick Mulvey dans le NRV qui sera en concert le 30 octobre au Trabendo à Paris. Une programmation sans conditions. de Jean-Baptiste Audibert. Le énervé, première partie, c'est fini. On va se retrouver dans 15 minutes. On va se retrouver avec Maxime.
Mais qu'est-ce que ça veut dire cette musique? J'aimerais bien savoir. C'est... Allez, on va danser toute la nuit. Même si je te connais pas, je t'embrasse dans la bouche.
Oui, ça existe encore la techno. Le rendez-vous est pris. Alors je vous dis à tout de suite.